Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
Près de 3000 ans, l'homme cherche l'arche d'alliance, l'arche perdue.
Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche.
Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'arche? Voulez-vous vraiment le savoir? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu.
Une armée qui se ferait précéder de l'arche serait invincible.
Si l'Arche d'Alliance se trouve réellement à Tanis, la main de l'homme ne doit pas s'en approcher sous peine de mort.
L'Arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination. Et elle est convoitée, avant tous les autres trésors de ce monde, par les bons.
Fie-toi à moi.
Et par les mauvais.
Je vais tout vous dire, tout.
Oui, je sais que vous parlerez.
Les aventuriers de l'Arche perdue.
Lâchez-la! Écoutez, patron, si vous voulez toujours l'Arche, elle va partir par camion au Caire. Baisse-toi!
Les aventuriers de l'Arche perdue. Un film de Steven Spielberg et George Lucas.
À 19h03 minutes, bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. Bienvenue dans Radio X Files. Vous avez entendu comme moi le craquement, le grincement d'une bande magnétique. Tu nous ramènes loin, j'ai l'impression, ce soir, Christian.
Absolument. On vient d'entendre la bande-annonce d'un film de 1991. Ça fait quand même 41 ans de ça. Oh. C'était le premier volet de la série des aventures d'Indiana Jones, qui mettait en vedette Harrison Ford dans le rôle du célèbre archéologue. Et le titre du film, c'était The Raiders of the Lost Ark, les aventuriers de l'Arche perdue. Et si je ne t'avais pas fourni cette bande-annonce, j'aurais probablement débuté cette émission en te demandant, Camille, quel est l'objet le plus précieux, le plus extraordinaire de l'histoire? Bien sûr, là, je t'ai mis un peu sur la piste avec la bande-annonce.
Oui.
Mais c'est vrai que si on allait sur la rue, on demandait à des gens quel est l'objet le plus extraordinaire de l'histoire, à n'importe quel féru un peu d'histoire, de mythes et légendes, le premier objet qui vient en tête, c'est bien sûr l'Arche d'Alliance.
Et moi, j'aurais répondu le Saint Graal, juste parce que je ne connais pas l'Arche d'Alliance.
tu vas le savoir ce soir.
Oui.
Donc, l'Arche d'Alliance, j'allais dire, c'est peut-être l'objet le plus précieux de l'histoire, juste après la fontaine de Jouvence.
Ah! Aussi, ben oui.
Faut quand même passer. Mais bon, bref, c'est un objet qui est tout à fait fabuleux. Et j'ai pas été étonné lorsque les aventures d'Indiana Jones ont été portées à l'écran que le premier objet fabuleux sur lequel s'est lancé Indiana Jones, c'était cette Arche d'Alliance. Et tu as tout à fait raison, hein. Si on se fie également aux mythes et légendes, le Saint Graal ne serait pas non plus piqué des vers. Hein,
non, parce que il serait dans un top 10, au moins.
Oui, t'as tout compris de ça, c'est sûr. Dans le top 10, il est là. Parce que le Saint Graal, c'est un peu l'équivalent de la fontaine de Jouvence dans la mesure où, selon la légende, quiconque boirait au Saint Graal aurait la vie éternelle. Donc, là aussi, comme tu dis, c'est un objet qui pourrait être très convoité. Mais ce soir, on va parler de cet objet qui est l'Arche d'Alliance, un objet extraordinaire. Même si on a des doutes sur sa réalité historique, mais on va regarder à la fois l'histoire dans laquelle l'objet apparaît, les propriétés qu'on lui attribue, et on va regarder aussi l'histoire de sa recherche, parce que si Indiana Jones est un aventurier sur celluloïdes, il faut quand même admettre qu'il y a des gens qui ont bel et bien tenté de retrouver l'Arche d'Alliance. Et tu parles avec l'un d'entre eux.
Oui, et on va se poser deux questions ce soir. La première, tu nous l'as inscrit dans notre plan d'émission. Où est passée l'Arche d'Alliance? Et moi, je te répondrai en sous-question. Où était-elle ou où était-je supposée être?
Oui, c'est ça. Donc, je l'ai cherchée. Donc, je me suis lancé dans cette quête-là parce que, bon, j'en ai souvent parlé à l'émission, mais l'une des grandes séries que j'ai réalisées, c'est à la recherche des reliques saintes que j'ai réalisées pour le canal Évasion. Ensuite, ça a été diffusé sur des canaux comme History aux États-Unis, Netflix et compagnie. In Search of the Holy Treasures en anglais. Et donc, on est essayé de retrouver là, pendant une année. Je me suis lancé avec un caméraman, un preneur de son. On s'est lancé à travers le monde à la recherche des objets les plus fabuleux qui ont marqué l'histoire principalement de la Bible, hein, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Donc, j'ai essayé de retrouver l'Arche de Noé, l'Arche d'Alliance, le Saint Graal. Donc, je me suis lancé dans ces quêtes-là. Et je te parlerai, bon, bien sûr, à travers notre conversation de ce soir, je te parlerai un peu de quelques petites anecdotes dans ma quête de l'Arche. Mais c'est vrai que des gens se sont lancés à la recherche de cet objet tout à fait extraordinaire. Donc, si tu le veux bien, commençons par l'histoire elle-même de l'objet. Hein. Qu'est-ce que c'est? Puisque tu me dis que tu ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je vais te replacer dans le contexte. On va parler, bien sûr, c'est bien important de mentionner ici, qu'on va parler de l'Arche dans sa forme littérale. Donc, on retrouve la description de cet objet dans l'Ancien Testament, principalement dans l'Exode. L'Exode qui fait partie des cinq premiers livres de la Bible qui constitue la Torah juive, donc le livre religieux des Hébreux. Et la façon dont on décrit l'Arche, bien sûr, on parle d'un objet physique et matériel. Mais bien sûr, il y a des interprétations ésotériques ou mystiques. Je pense par exemple à la Kabbale, qui est une façon d'interpréter la Torah de manière un peu mystique par son sens caché. Et là, on va donner d'autres interprétations à l'Arche. Mais dans notre cas, ce soir, on va essentiellement parler de l'Arche telle qu'on la décrit de manière littérale, cet objet matériel et physique. On ne cherchera pas les symboles là, derrière l'Arche. Et bien sûr, je ne prends pas position sur le plan religieux. Donc, bien sûr, c'est un objet très important de l'Ancien Testament et principalement de la Torah, hein, parce que Moïse est considéré comme le premier grand prophète et Moïse est au centre de notre aventure de ce soir.
Okay.
On ne prendra pas position sur l'aspect religieux de la chose, mais on va regarder ça essentiellement dans un cadre historique. Donc, comme je l'ai mentionné, notre personnage principal, c'est Moïse. Mais qui est-il et où se situe-t-il dans l'histoire? Ça, c'est un gros problème qu'on n'a pas résolu, hein, parce que Moïse, dans un premier temps, on attribue l'écriture des cinq premiers livres de la Bible, on les attribue à Moïse. Mais dans le cas, les cinq premiers livres de la Bible, je les mentionne pour les gens qui nous écoutent, qui ne seraient pas familiers. Je pense que tu m'as déjà confié, Camille, que tu n'étais pas très familière avec ça.
Je sais pas si c'est l'Ancien Testament, mais la Genèse, la création du monde, j'ai lu ces récits-là,
okay.
Mais ça fait bout.
Comme beaucoup de gens, on a ça très... Surtout les gens de ma génération qui se sont pas lancés là-dedans, là, ça date de quelques années.
Nos cours
d'éducation religieuse, là, bon. Les cinq premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, qui forme la Torah, c'est la Genèse, hein, le récit de la création du monde, l'Exode, le Lévitique et le Livre des Nombres.
Okay.
Donc ça, ce sont les cinq premiers livres de la Bible. Ensuite, Il y a des livres des prophètes qui s'ajoutent à l'Ancien Testament et ça constitue le corps de l'Ancien Testament. Dans les cinq premiers livres, donc le Pentateuque, on attribue l'écriture de ces livres-là principalement à Moïse et notamment l'Exode. Mais Moïse ne peut pas être l'auteur de ces ouvrages de l'Exode puisque dans l'Exode on parle de la mort de Moïse. Donc il n'a pas pu écrire sa propre mort. Tu comprends? Donc là on a un problème. Les historiens, puis là, encore une fois, je me dissocie de toute interprétation à caractère religieux. Donc, les gens qui nous écoutent, quelle que soit votre obédience, ça n'a rien à voir ici. Je parle essentiellement sur le plan historique. Donc, les historiens croient que les premiers récits qu'on retrouve dans l'Ancien Testament datent aux alentours entre l'an 600 et 800 avant Jésus-Christ.
Okay.
Et on croit que les récits auxquels on est confronté, dont on nous parle, ce sont des récits qui ont à peu près 1000 ans de tradition orale. Donc, les Hébreux échangeaient ces grands récits, ces grands mythes fondateurs, et pendant à peu près 1000 ans avant qu'on commence à les mettre sur papier. Donc, les premiers récits, comme je le mentionne, ont été écrits aux alentours de 600-800 ans avant Jésus-Christ, alors qu'on a à peu près 1000 ans de tradition orale. Dans cette tradition orale, bien sûr, on situe le personnage de Moïse. Bon, qui est-il et où se situe-t-il dans l'histoire? Là, on a un premier problème parce que dans l'Exode, Moïse ne mentionne jamais où il est. Et en fait, où il est en Égypte au départ, là. Mais lorsque l'Exode commence, on nous dit que les Hébreux travaillent comme esclaves et qu'ils ont travaillé comme esclaves à la construction des villes de Pithom et de Ramsès. Donc, on est en Égypte, mais on ne nous dit pas sous le règne de quel pharaon. Et Moïse lui-même, donc ça peut être de très nombreux pharaons, et Moïse lui-même, quand il parle, en imaginant que c'est un récit écrit à la première personne, en « je », mais lorsqu'il l'écrit, lui, il parle tout le temps du pharaon sous le nom de Pharaon. Il ne donne jamais son nom. Il dit « c'était la cour de Pharaon, Pharaon faisait ceci, Pharaon disait cela », mais jamais il ne mentionne de quel pharaon il est question. Notre seule référence historique, c'est de lorsqu'au début de l'Exode, on mentionne que les Hébreux travaillaient comme esclaves à la construction des villes de Pithom et Ramsès. Mais ça ne nous dit pas où ça se situe exactement.
Okay.
Ensuite de ça, les Hébreux esclaves qui construisent des monuments sous le joug égyptien, tel qu'on le voit par exemple dans des films. Je ne sais pas si tu as vu le film Les Dix Commandements. Je pense que à toutes les fois, quand arrive la période de Noël ou Pâques, il y a toujours à la télé Les Dix Commandements.
On a toujours une petite thématique.
Avec Charlton Heston qui incarne le rôle de Moïse. Ouais. C'est un film qui date des années 50. Et là, on voit bien sûr, les Hébreux, et c'est un peu aussi le récit de Moïse, les Hébreux sont sous le joug égyptien, ils travaillent à la construction des temples et tout le reste. Ici, il faut avouer que l'aspect religieux de la chose ou du mythe ne coïncide pas avec l'histoire. Les gens qui travaillaient, bien sûr, les Égyptiens ont eu des esclaves, mais principalement les gens qui travaillaient à la construction des temples, qui ont travaillé à la construction des pyramides, par exemple, n'étaient pas des esclaves, mais des ouvriers. Ces gens-là étaient engagés par le pharaon, ils étaient payés, rétribués pour le travail qu'ils faisaient. Donc, les Hébreux sous le joug des Égyptiens à coups de fouette là pour tirer des roches, là, ça, les historiens ont beaucoup de difficultés avec ça. Ça ne semble pas être appuyé par aucune découverte archéologique qui permet de croire à cela, ce joug égyptien majeur. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des petits groupes, des petites communautés d'Hébreux qui ont été gardés prisonnières, des communautés prisonnières en Égypte et qui ont travaillé comme esclaves. C'est possible, mais de façon générale, les gens qui travaillaient à la construction des temples, c'était des gens qui étaient payés par le pharaon. Et quand je dis payés, il faut bien s'entendre, ces gens-là, pour la plupart, étaient des agriculteurs. On travaillait au champ, mais on travaillait au champ lorsqu'il y avait la crue du Nil. Donc, grosso modo, on travaillait 6 mois par année. Le restant du temps, ou bien tu allais travailler au chantier du pharaon et le pharaon t'offrait le couvert et le gîte.
Ouais,
ou
bien ça, tu restais.
C'est ça. Ou bien tu restais chez toi, puis tu mourrais de faim. Donc, tu comprends, mais les gens n'étaient pas forcés de travailler, là, mis à part quelques exceptions, mais de grosso modo, les gens allaient vers les chantiers du pharaon pour avoir une subsistance durant les périodes de sécheresse, les périodes plus difficiles durant l'année égyptienne. Donc, l'idée de ces Juifs, là, de ces Hébreux, pardon, à coups de fouet, qu'on force à transporter des pierres, c'est peu vraisemblable.
Okay.
Les historiens situent le récit de Moïse, hein, même s'ils ne nous donnent pas le nom du pharaon sous lequel il se trouve, hein, parce que l'histoire de Moïse, rapidement, c'est l'enfant sauvé par la fille du pharaon qui va grandir à la cour du pharaon jusqu'à temps qu'il découvre ses origines hébraïques, qu'il va être chassé dans le désert, et c'est là, dans le désert, qu'il va rencontrer Dieu, et va devenir le Messie qui va faire sortir les Hébreux d'Égypte. C'est ce qu'on appelle l'Exode, hein. Donc, ce Moïse, les historiens situent à peu près le moment du récit aux alentours de 1200 ou 1300 avant Jésus-Christ, en fonction de ce qui nous est raconté, en fonction du contexte historique qui est évoqué. Mais encore une fois, ça veut pas dire que le récit qui est raconté est authentique. C'est une date que les historiens disent, bon, si on regarde le contexte socio-culturel de l'époque, ce récit à peu près nous place 1300 ans avant Jésus-Christ. Le problème avec le récit lui-même aussi, c'est que on n'arrive pas à trouver des preuves archéologiques qui soutiennent le récit. Dans un premier temps, les historiens remettent en doute le fait que les Hébreux aient été les esclaves des Égyptiens, même s'il y a certainement eu des petits groupes, des petites communautés qui ont pu être exploitées comme esclaves, mais l'idée là, de 200 000 Hébreux qui travaillent sous le joug de Pharaon, ça s'est jamais produit. Ensuite, l'Exode, hein, donc Moïse qui va libérer les Hébreux d'Égypte et les amener vers la Terre Sainte, ça non plus, il n'y a aucune preuve archéologique qui permet de supporter ça, et bien sûr, aucun texte, aucun hiéroglyphe, rien dans les... Et pourtant, les archéologues, hein, ont beaucoup de matériel. On en a déchiffré des hiéroglyphes là, depuis que Champollion a trouvé le moyen de lire les hiéroglyphes. Et à aucun moment là-dedans, on nous raconte que un individu X ou Y aurait libéré les Hébreux du joug égyptien et puis aurait traversé la mer Rouge à guet et éventuellement aurait noyé les armées de Pharaon. Tu comprends qu'un récit comme celui-là aurait des traces écrites ailleurs que simplement dans l'Ancien Testament. On trouverait des références à ça dans toutes sortes de, soit des peintures, soit des hiéroglyphes en Égypte qui évoqueraient ces éléments-là. Or, il n'y a absolument rien dans ce sens-là. Donc, on a cette histoire de Moïse qui, après avoir été élevé à la cour du pharaon et chassé des palais royaux, des palais pharaoniques, et puis il se retrouve dans le désert. Il faut situer un peu sur le plan géographique, hein, le désert du Sinaï où Moïse va rencontrer Dieu. C'est une pointe de terre qui se trouve à l'est de Gizeh, du Caire. On est toujours en Égypte, mais c'est une pointe de terre qui est séparée par le Nil. Et donc, Moïse est chassé dans ce désert du Sinaï. Et c'est là, alors qu'il va être dans le désert du Sinaï, qu'il a un appel. Et selon le récit, on se réfère à l'Exode. On nous dit, voilà, Moïse va monter sur le mont Horeb. Et c'est là, dans un buisson ardent, qu'il va s'adresser à Dieu. Donc là, déjà, on a un premier problème à la fois géographique et historique. Le mont Horeb, à l'époque de Moïse, n'avait pas le nom de mont Horeb. Et ensuite, il faut savoir que lorsqu'on lui a attribué le nom de l'Horeb, hein, donc aux alentours à peu près de 800-900 avant Jésus-Christ, le mont Horeb aurait pu changer d'endroit. Donc, tu comprends, donc sur le plan géographique, on n'est pas certain lequel, il y a 1000 ans, s'appelait le mont Horeb. Le mont Horeb, si aujourd'hui tu te rends dans le désert du Sinaï, le mont Horeb, là où Dieu s'est adressé à Moïse, il y a un monastère qui s'appelle le monastère Sainte-Catherine, qui est supposé être construit à l'endroit où Moïse s'est adressé à Dieu dans ce buisson ardent. Mais sur le plan historique et géographique, il y a des incertitudes. quant à la localisation du mont Horeb et l'endroit où, si ce récit-là s'est produit, ben, où Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, ça reste très nébuleux.
Y a-t-il une raison d'erreur de cartographie là-dedans qui porte confusion?
Oui, c'est ça, parce qu'on se rend compte que sur différentes cartes qui ont été écrites là, entre l'an 300 avant Jésus-Christ et l'an 1000, on voit qu'on ne situe pas le mont Horeb exactement au même endroit. On est toujours dans la même chaîne de montagnes. C'est la chaîne de montagnes du Sinaï, ou du Sinaï. Hein, les deux, on entend souvent les deux prononciations. Et il y a plusieurs sommets. Et on voit sur différentes cartes que le sommet dit sommet de l'Horeb, c'est pas toujours le même sommet. Donc, auquel est-ce que Moïse ou l'auteur de ce récit-là, à quelle montagne fait-il référence? C'est difficile à se situer puisqu'il y avait plusieurs sommets qui s'appelaient sommet de l'Horeb.
C'est difficile de leur demander aujourd'hui, c'était quoi la vue sur leur sommet à eux, pour essayer de s'orienter.
Et c'est là, donc, au moment où il est là, dans le désert, chassé de l'Égypte. Hein, c'est le fils répudié du pharaon fils adoptif, bien sûr, répudié du pharaon. Et le voilà qu'il est dans le désert et un appel. Et il va dans la montagne, le buisson ardent s'allume devant lui et à travers ce buisson ardent, Dieu va lui parler. Il va le commander d'être le Messie, celui qui va libérer le peuple hébreu du joug égyptien. C'est assez amusant parce que un détail qu'on n'évoque pas trop souvent, mais Moïse, au départ, il veut pas, hein, il dit non, je peux pas faire ça. Parce que, semble-t-il, Moïse bégait.
Ah, OK.
Fait que là, Moïse dit à Dieu, je peux pas être le porte-parole de Dieu. Il dit, je bégaye. Tu comprends? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, ben, tu vas parler à travers ton frère Aaron. Fait que, donc, c'est Moïse, là où il était né dans une famille d'Hébreux qui était déjà sous le joug égyptien. Et il va découvrir qu'il y a un frère qui est Aaron, et c'est Aaron qui va parler à sa place. Mais bref, un petit détail amusant, là, parce qu'on voit toujours Moïse dans les films. Hein, Moïse arrive devant le pharaon, puis il toise le pharaon. Oui, pharaon, en réalité, il y avait toujours avec lui son frère Aaron qui parlait à sa place.
Son traducteur.
Oui, c'est un peu ça. Donc, quoi qu'il en soit, Moïse se retrouve sur l'Horeb, Dieu lui parle. Éventuellement, il va, à travers ce buisson, il va lui donner des commandements, il va demander de libérer le peuple hébreu et ils vont s'en aller. Et avec ça, bien sûr, ils vont aller dans le désert, ils vont errer pendant 40 ans avant d'aller en Israël, qui va devenir la terre promise. Et c'est durant ces communications avec Dieu sur l'Horeb que Dieu lui dit « Je vais te donner des tables avec les 10 commandements ». Donc, il explique à Moïse ce qui va se passer. Et là, il dit à Moïse, et c'est là qu'on entre dans le vif de notre sujet, il dit à Moïse, une fois que j'aurai fait les tables de la loi avec les 10 commandements, il dit « Tu feras pour ces 10 commandements, hein, tu t'emportes pas ça comme ça dans ta poche ou en dessous du bras, là. » Il dit « Une fois que je t'aurai donné les tables, il dit, tu vas construire pour les tables, tu devras construire une arche. » Et l'arche, c'est une boîte. Hein, il donne des mesures. Si on les il parle en termes de coudées. Hein, elle va mesurer une coudée et demie de longueur, une coudée et demie de hauteur. Bon, il donne des indications. Si on le traduit en mesure d'aujourd'hui, l'arche était, je vais te donner les références en centimètres ou en mètres et en pieds pour les plus vieux, comme moi.
Oui,
c'est donc, l'arche, grosso modo, mesure à peu près 1,27 m de long pour à peu près 77 cm de haut et 77 cm de large. Donc, à peu près, grosso modo, 4 pieds par 2 pieds par 2 pieds. C'est pas une très grosse boîte.
Mais non, c'est
boîte,
pas gros. C'est ce qu'ils ont pour jouer au limbo, là.
C'est ça. Donc, c'est sûr que 4 pieds de long, c'est quand même assez important, mais à peu près ça, t'as 2 pieds de haut. Bon, c'est pas si énorme que ça. Donc, il dit à Moïse, tu vas faire cette boîte. Et là, il lui donne des détails très précis. Hein. Il dit, tu la couvriras d'or en dedans et tu la couvriras d'or en dehors. Une fois que tu auras fait ça, tu couleras des anneaux d'or que tu vas placer à chaque coin de la boîte, là, de l'arche. Tu vas faire pour cette arche. Hein, puis il lui dit, elle devrait être faite en bois d'acacia. Il précise le bois dans lequel elle devrait être faite, couverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Tu fondras pour elle des anneaux que tu vas placer aux quatre coins. Tu vas placer dans ces anneaux des barres en bois d'acacia qui permettront de transporter l'arche, des barres qui seront elles aussi couvertes d'or. Tu feras pour l'arche un couvercle sur lequel sera placé deux chérubins. Hein, ce sont des anges qui auront les ailes retournées vers l'intérieur. Dieu est très précis par rapport à la construction de l'arche. Rien n'est laissé au hasard. Et il dit à Moïse, une fois que l'arche sera terminée, puis tu y placeras les tables que je t'ai données, les tables de la loi. Donc, au départ, c'est à ça que doit servir l'arche. Donc, Moïse, selon le récit, emmène donc les Hébreux dans le désert. Là, on a un autre problème de nature archéologique, parce que quand on parle des Hébreux dans le désert, on parle de plusieurs centaines de milliers de gens qui vont occuper le désert pendant 40 ans. Et la problématique archéologique, c'est qu'il n'y a jamais eu d'occupation massive du désert du Sinaï. Donc, tu comprends que des centaines de milliers, entre 200 ou 400 000 individus qui vivraient pendant 40 ans dans le désert, ça laisserait des vestiges. Mm-hmm. Or, les recherches archéologiques n'ont pas trouvé ça. On a trouvé des traces d'une occupation, mais des occupations de petites communautés qui se sont succédées, probablement qui peut être à la fois des petites communautés égyptiennes. On a trouvé des traces également d'occupation arabe, probablement aussi d'occupation hébreuse. Mais l'idée d'une communauté là, massive qui aurait occupé le désert du Sinaï pendant 40 ans, ça ne repose sur aucune preuve archéologique. Il n'y a rien qui permet de croire ça. Néanmoins, on se replonge dans notre récit biblique. On a Moïse avec les Hébreux. Ils sont dans le désert. Ils ont construit l'arche et les tables de la loi sont à l'intérieur de l'arche, hein, parce que Dieu en a fait un double, parce que Moïse a brisé les tables de la loi dans un premier temps.
Bon.
Dieu, ah oui, il était fâché, Moïse. Parce que quand Dieu lui a donné les tables de la loi, il est redescendu, puis là, il a vu que les Hébreux adoraient un veau d'or, puis là, ça a choqué Moïse, il a cassé les tablettes de la loi, Dieu a dû lui en redonner des nouvelles. Donc, ce sont ces tables de la loi qui sont placées dans l'arche. Et là, l'arche, elle est fabuleuse. Hein, la Bible ne lésine pas sur les détails pour nous parler de comment cet objet-là, il est merveilleux. Dieu parle à travers l'arche. Dieu est dans l'arche. Dieu est entre les ailes. Lorsqu'il parle à Moïse, il parle d'entre les ailes des chérubins. On nous dit que l'arche est hérissée d'étincelles. Elle est fabuleuse, hein, pour la transporter. Les gens, les porteurs de l'arche doivent revêtir des vêtements spéciaux pour la transporter. Elle est tellement lumineuse que la nuit, elle guide les Hébreux dans le désert. Elle crée une espèce de nuée autour d'elle qui va servir à guider les Hébreux à travers le désert. Elle est si brillante et si étincelante qu'il faut lui mettre un couvercle, une espèce de couverture pour empêcher d'être aveuglé par la lumière de l'arche. À un moment donné, et là, lorsqu'on est dans le transport de l'arche, dans le deuxième livre de Samuel, un des prophètes, on nous raconte que l'arche est transportée sur un chariot avec des bœufs et une des roues va se briser. Au moment où l'arche va glisser du chariot, un des transporteurs, un dénommé Uzza, va tendre la main pour empêcher l'arche de tomber. Et il est foudroyé à l'instant.
Hein?
Donc, même toucher l'arche, c'est comme incroyable. C'est tellement pur, c'est tellement Dieu. Et je vais ici donner un peu l'explication parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu les aventuriers de l'arche perdue. Ils n'ont pas trop compris la fin. Parce qu'à la fin, je sais pas si tu as vu le film Les Aventuriers de l'Arche perdue.
Non, je l'ai pas vu.
Donc, à la fin, lorsque les Allemands ouvrent l'arche, parce que oui, c'est vrai que les Allemands ont essayé de retrouver des espèces de trésors fabuleux durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça vaut la peine qu'on se fasse une émission pour parler de ça. Et bien sûr, ils deviennent les méchants parfaits pour les aventuriers de l'Arche perdue. Donc, c'est la lutte entre Indiana Jones et les Allemands pour mettre la main le premier sur l'arche, hein, d'où l'action se situe à peu près à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'on entend dans la bande-annonce une armée précédée de l'arche serait invincible. Ben évidemment, on pense aux armées du Troisième Reich. Hein. Hitler veut s'emparer de l'arche pour être invincible. Mmh. Donc c'est vrai que dans la Bible, les armées, le peuple hébreu qui possède l'arche est à peu près invincible. L'arche est non seulement un moyen de communiquer avec Dieu, parce qu'à travers l'arche, Dieu s'adresse directement à Moïse, Mais après Moïse, hein, son successeur, Josué, va, on connaît tous, on a tous entendu parler des murs de Jéricho. Ben, c'est justement, Josué arrive à Jéricho et là, il veut entrer dans la ville. On lui interdit, on interdit aux Hébreux d'entrer dans la ville. Il y a des combats qui vont se faire et ils vont sonner des trompettes. Les Hébreux vont clamer en leur présence à travers des trompettes. Ils vont tourner autour de la ville avec l'arche et les murs de Jéricho vont s'écrouler. Donc, tout ça à cause, bien sûr, de la présence de l'arche. C'est un objet fabuleux, et là où j'allais dire à propos de Indiana Jones, à la fin du film, lorsque les Allemands ouvrent l'arche, Jones dit à la jeune femme qui l'accompagne, Marion, il lui dit « ne regarde pas ».
Oh.
Et le fait de ne pas regarder les sauve. Tous les Allemands sont brûlés dans une espèce de feu céleste, mais pas Indiana Jones. Pourquoi? Ben parce que dans la Bible, tu ne peux pas voir Dieu. À un moment donné, Moïse, dans l'Exode, dit à Dieu, « Est-ce que je peux voir ta face? » Et Dieu dit, « Non, quiconque verra ma face périra. Lorsque je passerai sur la montagne, » il parle de l'Horeb, bien sûr, il dit, « Lorsque je passerai sur la montagne, je mettrai ma main et je la retirerai une fois passée, de façon à ce que tu ne me vois que de dos, parce que quiconque voit mon visage va mourir. » Donc, lorsque les Allemands ouvrent l'arche, c'est le visage de Dieu que l'on voit. Et c'est pour ça que Jones dit à Marion, ne regarde pas. Mmh, parce que si on regarde, on va voir le visage de Dieu, puis on va mourir. Donc, tu vois un peu l'aspect extraordinaire de cet objet. Hein? On la transporte dans le désert, hérissée d'étincelles, elle guide les Hébreux. Même à un moment donné, les Hébreux sont affamés et l'arche hein, va comme créer une espèce de vortex et une nourriture miraculeuse qu'on appelle la manne va tomber sur les Hébreux pour les nourrir. Il y a aussi des petites particularités de l'arche. Hein. Dans le livre de Samuel, à un moment donné, on raconte que l'arche est tombée entre les mains des Philistins qui l'ont ramenée chez eux. Ils l'ont placée dans un temple qui était dédié au roi, au dieu Dagon. Et un matin, en entrant dans le temple, les Philistins ont vu que l'idole qui représentait Dagon était tombée de son socle, s'était brisée devant l'arche. Et l'on nous dit que du plus jeune au plus vieux des Philistins, ils ont tous eu une rage d'hémorroïdes due à la présence de l'arche.
Eh bien, c'est particulier, ça.
Oui, c'était tellement inconfortable que les Philistins ont retourné l'arche aux Hébreux. Ils leur ont redonné leur arche.
C'est drôle parce que je t'entends parler depuis tantôt, Christian, puis je me disais, une arche aussi spéciale et aussi divine ne pouvait pas rester en place. Quelqu'un allait essayer de la voler. Là.
Effectivement. Donc, mais tu vois, si tu la voles, tu risques d'avoir des hémorroïdes.
Prenez garde, avis aux hémorroïdes.
Voilà. Donc, c'est un objet tellement fabuleux que moi, je me rappelle, dans les années 60-70, quand est apparue l'hypothèse ou la théorie des anciens astronautes, hein, qui nous disaient, les extraterrestres sont intervenus dans l'histoire, ils ont aidé à construire les pyramides. Bon, dans ce discours-là, on incluait bien sûr l'Arche d'Alliance. L'objet est tellement fabuleux qu'on se disait, lorsque Dieu donne ses indications à Moïse, en fait, Dieu devait être un extraterrestre et ils ont construit un émetteur-récepteur pour parler avec Dieu, mais Dieu étant des extraterrestres, c'était simplement une radio, une espèce de walkie-talkie qui permettait de parler avec les extraterrestres. Tout ça pour te dire qu'on a récupéré cet objet-là parce qu'il est tellement fabuleux. Donc, c'est l'histoire de l'arche et on va perdre éventuellement sa trace parce que, bon, après l'exil des Hébreux dans le désert du Sinaï, c'est la mort de Moïse, Josué va récupérer l'arche, hein, il va y avec elle, il va guider les Hébreux vers la terre promise. Et là, si on fait un bond dans l'histoire et on avance, l'arche éventuellement va se retrouver à Jérusalem, le roi Salomon, le fils du roi David, le fondateur de Jérusalem, a fait construire un immense temple. Et c'est dans ce temple qu'on va placer l'Arche d'Alliance. On a construit ce qu'on appelle le Saint du Très-Saint, donc une espèce de chambre particulière. Et c'est dans ce lieu Très-Saint que le roi Salomon va faire déposer l'Arche d'Alliance pour la protéger. Et là, bien évidemment, seuls les gens les plus nobles peuvent voir l'arche qui gardait là, qui est le symbole de la relation entre les Hébreux et Dieu. Et à partir de là, l'arche ne sera plus jamais évoquée dans l'histoire de la Bible. Hein. Elle disparaît. On la place dans le temple de Salomon et ensuite elle disparaît du livre. La Bible, toujours, quand je dis la Bible, on s'entend bien que je parle ici de l'Ancien Testament, donc de cette période-là, de cet épisode-là. On nous raconte qu'à un moment donné, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, s'est emparé de la ville, ce qui est un fait historique. Hein? On est ici aux alentours de l'an 587 ou 586 avant Jésus-Christ. Les Babyloniens vont envahir Jérusalem, puis ils vont prendre la ville. Et la Bible fait référence à cet événement-là et on nous dit dans le livre des rois que Nabuchodonosor est arrivé là avec ses armées et là on nous dit, le texte dit, ils sont entrés dans le temple de Salomon, ils vont d'ailleurs détruire le temple de Salomon, mais ils disent, ils sont entrés dans le temple de Salomon et se sont emparés de la vaisselle, se sont emparés des ustensiles, donc des objets du menu frottin, si je puis dire, qui se trouvaient dans le temple de Salomon, mais à aucun moment il n'est mention de l'arche. Mmh. Et c'est là que l'énigme apparaît.
Parce qu'elle devait être là.
C'est ça. L'arche d'alliance est un objet tellement fabuleux qui a été un élément essentiel qui était au centre de l'exode des Hébreux. C'est un objet extraordinaire. Si cet objet-là était tombé entre les mains des Babyloniens au moment de la destruction du temple, il est certain que les textes en parleraient. Or, jamais l'arche n'est mentionnée. Alors, à partir de là, c'est le début du fantasme. Où est passée l'arche? Si elle n'est pas tombée entre les mains des Babyloniens, c'est qu'elle devait être, elle a dû probablement être déplacée avant l'arrivée des armées. Et quand les armées babyloniennes sont entrées à Jérusalem puis ont pris la possession du temple, ben, ils n'avaient pour se satisfaire que des ustensiles et de la vaisselle. Mais l'arche, elle, avait été transportée ailleurs. Et c'est ici que commence l'aventure. Où a-t-elle été transportée?
Tididou!
Là, on a toutes sortes d'éléments qui peuvent nous lancer sur plein de pistes. Donc, dans un premier temps, on a un texte apocryphe qu'on appelle le livre des Maccabées et dans lequel on nous dit que l'arche a été ramenée quelque part dans une caverne près du mont Horeb où Moïse a rencontré Dieu et où Moïse a commandé à Dieu la fabrication de l'arche. Mais bon, c'est le désert du Sinaï, c'est très grand, puis essayer de trouver une caverne où l'arche serait, bon, c'est une autre problématique. L'autre hypothèse, l'arche n'était pas dans le temple de Salomon au moment où les Babyloniens envahissent Jérusalem parce que l'arche a été amenée dans des souterrains. On le sait, Jérusalem est creusée de tunnels en dessous et en particulier quand tu regardes une photographie de Jérusalem ou des images de Jérusalem, la première chose qui nous frappe, c'est cette grande mosquée au centre de Jérusalem avec un immense dôme doré. On l'appelle le Dôme du Rocher. C'est une mosquée et cette mosquée a été construite à l'endroit où se trouvait jadis le Temple de Salomon. Hein, ça a été d'abord le Temple de Salomon, ensuite le roi Hérode a fait construire, lorsque le Temple a été détruit par les Babyloniens, le roi Hérode a fait construire son Temple à cet endroit-là. Quand le Temple du roi Hérode a été rasé, les musulmans ont fait construire une mosquée et c'est cette mosquée que l'on voit aujourd'hui qui s'appelle le Dôme du Rocher. C'est vraiment magnifique. Et cet endroit là, c'est le troisième lieu le plus saint de l'islam, hein, parce que le premier, c'est la Mecque, hein, là où est né Mahomet. Ensuite, c'est Médina, là où il est décédé. Et le troisième lieu, c'est Jérusalem, là où s'est envolé vers le paradis où il y a eu l'illumination. Donc, c'est très important cette histoire du Dôme du Rocher. Et moi, je me rappelle quand j'étais à Jérusalem, on me dit, ben là, il y a plein de cavernes en dessous du Dôme du Rocher, l'arche pourrait être là. Puis je dis, on n'a rien qu'à creuser. Puis là, l'archéologue me regarde puis il me dit, ouais, mais si tu creuses là, tu vas déclencher la Troisième Guerre mondiale.
Ouais, c'est ça, c'est parce extrêmement que, protégé. Hein?
Voilà, parce que il faut bien comprendre que Jérusalem est partagé entre différents groupes religieux. Hein. On a les Juifs qui sont d'obédience avec la les Hébreux et qui sont en fait les descendants des Hébreux, qui se réclament être les descendants des Hébreux. Ensuite, on a les chrétiens qui sont là, on a les coptes qui sont là. Donc, on a un sérieux problème là, parce que toutes ces communautés gèrent la ville de Jérusalem et on ne peut à peu près rien faire sans l'autorisation des uns et des autres. Et dans le cas du Dôme du Rocher, ben, tu comprendras, comme c'est une mosquée qui est un lieu très saint de l'islam, ben, il est évident qu'on ne permettra pas des gens d'arriver avec des pics puis des pioches puis de commencer à creuser là. Mm-hmm. Donc ça, c'est impossible. Donc, une des hypothèses, mais on ne pourra jamais la confirmer, en tout cas pas dans un proche avenir, c'est que l'arche aurait été déplacée dans des cavernes en dessous de ce qui est aujourd'hui le Dôme du Rocher. Et donc, elle serait là, quelque part, dans une caverne. On sait que des recherches archéologiques qui ont été menées en dehors de cette zone-là ont démontré, ont prouvé que c'est vrai que sous le Dôme du Rocher, il y a bel et bien des cavernes et des tunnels qui servaient à la fois pour se protéger des ennemis, qui servaient également d'aqueduc. Hein. Donc, on a des tunnels dans lesquels circulait aussi de l'eau pour ramener de l'eau à différents endroits de Jérusalem et les aqueducs passaient sous ce qu'on appelle aujourd'hui le Dôme du Rocher. Donc, ces cavernes-là, elles existent bel et bien. Est-ce que l'arche pourrait être là? Si arche il y a eu, hein, si l'objet a réellement existé, parce que bien sûr, en dehors de ce récit, le récit de la Bible, de l'Ancien Testament, de la Torah, il n'y a aucun autre récit qui parle de ça. L'arche n'a pas laissé de souvenirs dans d'autres écrits, si ce n'est des écrits qui sont ou bien les écrits de l'Ancien Testament ou d'autres textes religieux, mais qui font référence à l'Ancien Testament ou à l'épopée Moïse. Donc, on n'a pas de preuve que l'objet a existé par d'autres sources que les sources religieuses. Donc,
est-ce que Dieu a existé?
Ouais,
est-ce
qu'il a tout
réellement eu l'arche de Noé?
Oui, mais n'embarquons pas dans ce débat-là. Donc, l'arche pourrait être dans une caverne près de l'Horeb, elle pourrait être dans une caverne sous le Dôme du Rocher. Des gens dans une espèce de mouvement mystique qui s'est développé à partir des années 60, hein, où on a comme revalorisé les Templiers, on a revalisé l'ésotérisme, le mysticisme. Donc là, on fait passer l'arche, on dit « Ah, ben elle a peut-être été amenée en Angleterre par les Templiers, elle serait dissimulée quelque part en Angleterre ou peut-être même en Écosse, dans la chapelle Roslin, qui d'ailleurs termine le film Le Code da Vinci. Hein. » C'est là qu'on découvre, okay. Ça se termine en Angleterre dans la chapelle Roslin. Donc, c'est un lieu très mythique en Écosse, et on dit ben, peut-être que l'arche serait là. On a remarqué également que sur une des colonnes de l'église Notre-Dame de Chartres en France, on a une sculpture qui montre une charrette avec l'arche sur le dessus. Alors là, évidemment, on s'est dit, bon, Notre-Dame de Chartres est un haut lieu du mysticisme religieux. On s'est dit, ben, peut-être que l'arche a été enterrée quelque part sous la cathédrale de Chartres. Ceux qui suivent la série La Malédiction d'Oak Island, ben, évidemment, on a entendu parler que peut-être qu'on aurait caché à Oak Island l'arche d'Alliance, qui pourrait être cachée dans le trou. T'sais, bon, OK, pourquoi pas? Je vois pas vraiment comment les Hébreux de l'époque auraient transporté l'arche à Oak Island, mais en tout cas, elle aurait dû tomber entre les mains des Templiers. Ça passe toujours par les Templiers qui, eux, l'auraient amenée à Oak Island. Bon, c'est à peu près du grand n'importe quoi.
Okay.
Il y a une tradition qui est plus soutenue, et cette tradition plus soutenue, c'est que l'arche serait aujourd'hui en Éthiopie. Et pourquoi l'Éthiopie? Ben parce que dans le livre des rois, là, donc on se retourne vers l'Ancien Testament, dans le livre des rois, on nous parle d'une rencontre qui aurait lieu entre le roi Salomon. Hein, rappelle-toi, Salomon, c'est lui qui fait déposer l'arche dans le lieu très saint de son temple.
Dans un langage judiciaire, on dirait que c'est le dernier à avoir été témoin d'un déplacement de cette arche.
Le dernier propriétaire, c'est à lui.
C'est ça.
Donc, le roi Salomon, on nous raconte une histoire où le roi Salomon aurait rencontré la reine de Saba. Donc, c'est assez sommaire. Là. On nous parle simplement de cette rencontre-là, mais rien de plus. Mais il y a une tradition qui va se développer autour de ça, autour d'une tradition, on parle bien ici d'une tradition chrétienne d'Éthiopie, qui va raconter, et on parle de tradition, hein, c'est pas vraiment un récit étoffé, mais la tradition nous dit que la reine de Saba aurait eu une liaison avec le roi Salomon, et que, puis là, bien évidemment, la reine de Saba, dans cette interprétation, serait l'Éthiopie. Hein, on dit que c'est l'ancien nom de l'Éthiopie. Okay. Et encore là, les historiens sont pas d'accord là-dessus. Hein. Pour eux, cette région-là, l'Éthiopie, c'est loin d'être certain que c'était le royaume de Saba. Ça pourrait être la Libye, par exemple, qui pourrait aussi être le royaume de Saba. Donc, il y a une incertitude sur où se trouvait le royaume de Saba. Mais bon, les Éthiopiens, dans leur culture, dans la tradition chrétienne, ont récupéré ce récit-là en disant Saba, c'était l'Éthiopie. Il faut quand même retenir qu'il n'y a pas une certitude historique là-dessus. Et la reine de Saba aurait eu une aventure avec le roi Salomon. De cette union, hein, elle serait retournée dans son royaume. De cette union serait né un fils, Ménélique. Et à la mort de la reine de Saba, Ménélique Ier aurait pris le pouvoir. Toujours selon cette tradition, Ménélique aurait voulu rencontrer son père, serait retourné à Jérusalem, aurait rencontré le roi Salomon. Et au moment de retourner en Éthiopie, l'un des gardes de Ménélique Ier aurait volé l'arche, l'aurait caché dans les bagages de Ménélique, et l'arche aurait ainsi été transportée en Éthiopie. Donc ça reste une tradition chrétienne. Et on retrouve quand même un vieil écrit du 13e siècle qu'on appelle le Quebron Agast, qui raconte que l'arche aurait pu être en Éthiopie, elle aurait été transportée au lac Tana, toujours en Éthiopie, et de là, on l'aurait transportée dans une petite église, une petite chapelle qui s'appelle aujourd'hui Sainte-Marie de Sion, qui se trouve à Aksum, en Éthiopie. Et c'est là qu'elle serait aujourd'hui. Bon, moi, j'y suis allé.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir répondre à ma question. Là, on parle d'Éthiopie, de Jérusalem et de l'Égypte. Toi, pour avoir enquêté là-dessus, quelles sont les règles concernant l'archéologie et les fouilles archéologiques?
Disons que tout ça est excessivement contrôlé. Hein? Okay. Je veux dire, tu donnes pas un coup de pioche là, sans avoir 1000 autorisations. Hein? Il y a des groupes qui sont spécialement dédiés. Les fouilles archéologiques sont menées par le ministère de la Culture dans chacun de ces pays-là. C'est excessivement contrôlé.
D'accord.
Et donc, si on s'imagine que parce que c'est des pays très anciens, puis on sait que souvent c'est très chaotique sur le plan gouvernemental, je peux te dire que sur le plan de la recherche archéologique, c'est excessivement contrôlé.
OK.
En Éthiopie, c'est un peu moins contrôlé, mais ça n'en reste pas moins qu'il y a des balises très rigoureuses. La problématique avec l'arche, c'est que aujourd'hui, on nous raconte, hein, selon toujours cette tradition chrétienne éthiopienne qui situe l'arche dans cette petite chapelle à Aksum, hein, dans la chapelle de Sainte-Marie de Sion. Il faut savoir ici qu'on est on est à la fois dans la tradition et on fait un peu référence à un écrit du 13e siècle qui s'appelle le Quebron Agast. L'arche serait toujours là, accessible. Mais accessible à une seule et unique personne, le gardien de l'arche, le Hatag. Donc, il y a, dans cette chapelle Sainte-Marie de Sion, il y a un homme qui a été nommé à vie pour être le gardien de l'arche.
Mmh.
Il est la seule personne qui peut entrer dans la chapelle et il va passer toute sa vie à garder l'arche, si elle est là. Bien sûr, c'est ce qu'on nous dit.
Oui, OK, tu ne l'as pas vu, toi, quand t'es allé.
Oh que non, hein, moi je l'ai. Et c'est entouré d'une clôture. Quand tu arrives là, écoute, tu peux pas sauter à la clôture. Crois-moi, tu peux pas rentrer dans la chapelle, rien.
OK.
C'est impossible. Faudrait rentrer de force, là. J'ai même pas pu rencontrer le gardien, hein, le Hatag. Il fait pas d'entrevue, il est pas là pour faire la joie à la caméra, rien de ça. Donc, c'est un peu un cul-de-sac. Tu t'as mené ton investigation et là, bang, t'arrives devant cette petite chapelle dans laquelle on nous dit, voilà, l'arche est à l'intérieur, mais on peut pas la voir, elle n'est pas accessible. Il y a seul le gardien qui, lui, apparemment, peut la voir, peut la toucher. Et on peut pas aller plus loin. Donc, on a les autres hypothèses qui nous disent, voilà, elle est cachée à Oak Island, elle est cachée dans une caverne à l'Oreb, elle est cachée sous la mosquée du dôme du rocher. Mais finalement, on se retrouve n'importe où, quelle que soit la piste que l'on suit, on se retrouve dans un cul-de-sac.
Okay.
Et évidemment, on voudrait bien pouvoir la toucher et la voir, cette fameuse arche. Sur le plan archéologique, Comme je l'ai mentionné, on n'a pas de preuve que Moïse a existé. Il n'est certainement pas l'auteur des textes du Pentateuque, même si la tradition veut que ce soit lui l'auteur. Les experts, les historiens croient qu'il s'agit plutôt de tout un ensemble de textes qui ont été écrits là entre, comme je l'ai mentionné, on a eu à peu près 1000 ans de tradition orale, on a récupéré beaucoup de récits, parce qu'il faut savoir que les Hébreux, puis on parle essentiellement sur le plan archéologique, là, j'insiste là-dessus, sur les Hébreux, ont eu des contacts avec les Babyloniens, ont eu des contacts avec la Syrie, ont eu des contacts avec Sumer, ont eu des contacts avec, avec l'Égypte. Donc, ils ont eu des contacts avec à peu près tous les peuples qui régnaient dans cette partie du monde. Et ils ont récupéré, évidemment, plein de récits, en la Genèse, par exemple, et originalement, un récit babylonien. On le retrouve, en fait, c'est un récit qu'on retrouve chez Sumer avant, repris ensuite par les Babyloniens, et éventuellement récupéré dans les textes de la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu crée le monde, la Genèse, etc. C'était déjà un récit très ancien au moment où cet écrit-là a été fait et qui est visiblement un emprunt de d'autres sociétés. Donc, on a ce 1000 ans de tradition orale. Les Hébreux vont récupérer des éléments mythologiques empruntés à d'autres sociétés et éventuellement, aux alentours entre l'an 600 et 800 avant Jésus-Christ, on va commencer à écrire les premiers récits. On n'a pas ces textes-là, bien sûr, les textes originaux de la Bible écrits, l'Ancien Testament écrit là, 800 ans avant Jésus-Christ, il n'existe pas ces documents-là. On a des copies de copies de copies de copies et c'est un peu pourquoi, quand on parle de cette période-là, de cette histoire-là, on revient souvent sur le sujet des manuscrits de la Mer Morte et pourquoi les manuscrits de la Mer Morte sont si importants et si intéressants, parce qu'ils sont probablement les documents, les copies les plus anciennes que l'on possède des récits de l'Ancien Testament. Donc, c'était copie, 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 mais les textes de la Mer Morte, ce sont des documents qui datent à peu près de 2000 ans, qui sont des copies de XXXY génération à partir des originaux, mais c'est probablement les documents, les copies les plus anciennes que l'on possède de ces récits qui sont rapportés dans l'Ancien Testament. Donc, on a toute cette tradition. Les historiens, sur le plan archéologique, on n'a aucune preuve que Moïse existait, mais on a des bonnes raisons de croire qu'il n'a jamais existé. Il n'y a aucune preuve que les Hébreux ont erré pendant longtemps dans le désert. Quant à la construction du coffre, ces mesures que Dieu donne à Moïse, hein, elle va mesurer 2,5 coudées de longueur, 1,5 coudée de largeur, 1,5 coudée de hauteur. Ça, c'est les indications que donne Moïse, que Dieu donne à Moïse. Ce sont des indications qui correspondent à peu près à des coffres qu'on retrouve en Égypte. Hein. Quand on a découvert, par exemple, le tombeau de Toutankhamon, on a trouvé des coffres qui ressemblaient à... Donc, des coffres... On peut donc dire que l'arche est de facture égyptienne. C'est donc la mesure, la grosseur, la forme que Dieu décrit à Moïse pour la construction de l'arche. On voit très clairement ici une influence égyptienne. Donc, ce sont des coffres de transport qui étaient beaucoup utilisés dans l'Égypte antique. Et visiblement, le récit de la construction de l'arche s'inspire, hein, pour l'objet lui-même, ouais, s'inspire fortement des coffres de transport utilisés dans l'Égypte antique.
Et ça m'amène tellement une question niaiseuse, Christian.
Vas-y.
Est-ce qu'on n'a pas passé à côté de l'arche parce que finalement, on a désigné le terme arche comme étant peut-être plus une boîte et qu'elle était moins reluisante, moins dorée qu'on pensait? T'sais, on a vu une vulgaire boîte, Christian, puis on a fait bon, pourquoi on tasse ça de côté?
C'est bien possible. C'est bien possible. Tu as tout à fait raison. Donc, ce récit-là, hein, t'sais, on peut se poser la question, si on pose la question à un historien, on va dire, bah, t'sais, l'arche, évidemment, comme c'est une construction à la demande de Dieu, ça peut pas être une simple boîte en bois. T'sais. Donc, c'est sûr que le récit va la rendre fabuleuse. Hein. Elle est entourée de feu, d'étincelles. Ouais. Or, dans toutes les religions du monde, le Dieu, peu importe le Dieu que tu vénères, mm-hmm, Dieu est toujours représenté par le feu. Donc, c'est bien normal que l'arche soit hérissée d'étincelles, qu'elle sème la mort, qu'elle est une arme extraordinaire, ça fait partie d'une espèce de tradition fantasmée que ces objets-là doivent être extraordinaires. Mais il est possible que sur le plan historique, les premiers écrits hébreux, hein, les premiers textes qui auraient pu être écrits par des rabbins, là, entre guillemets, des rabbins de l'Antiquité qui auraient écrit les premiers textes hébraïques de la tradition orale. Ça se peut que ces textes-là aient été transportés dans une vulgaire boîte et qu'éventuellement le récit de ces parchemins, de ces écrits transportés dans une boîte sont devenus l'Arche d'Alliance avec les tablettes des lois, tu sais, des 10 commandements. Ouais. Tu sais, de quelle façon l'histoire va amplifier, déformer le récit pour en faire une épopée fantastique. Parce que c'est sûr, aucun objet, j'insiste là-dessus, aucun objet décrit dans l'histoire n'a d'égal l'Arche d'Alliance. C'est vraiment un objet fabuleux. Mais bien sûr, il faut pas considérer que cet objet-là a existé de manière littérale telle qu'on nous le raconte. C'est sûr qu'il y a une réalité fantasmée, mais il n'est pas interdit de croire qu'il y a derrière cette histoire-là quelques petits éléments qui se rapprochent davantage d'une recherche archéologique ou historique et que le mythe a fait le reste. Mais bon... Pour le plaisir, j'ai essayé de trouver l'arche comme Indiana Jones, comme plein d'autres l'ont fait.
Je t'imagine tellement avec un coat de cuir puis le petit chapeau, pareil, là. Dans ma tête, t'es pareil qu'Indiana Jones.
Mais tu sais, tu comprends que, ultimement, j'étais bien persuadé au départ que, pour avoir fait mes classes, si je puis dire, hein, j'avais parlé avec des archéologues, des historiens. Évidemment, quand je me suis lancé dans cette quête-là, je savais bien que l'objet lui-même, tel que je le fantasmais, tel qu'on le fantasmait au cinéma, n'a jamais existé. Mm. Donc, la possibilité de trouver ça, c'est improbable. Mais, c'était quand même une aventure extraordinaire que d'essayer de retrouver l'Arche d'Alliance parce que c'est vrai que le récit fait fantasmer. Mais c'est une histoire extraordinaire et elle nous accompagne encore aujourd'hui. On est en 2022, c'est un récit qui se situe dans l'histoire aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ, qui est rapporté dans les premiers écrits qui vont servir de canevas à la Torah, donc qui date de 600 à 800 ans avant Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, on en parle, on fantasme, on fait des films autour de cet objet-là qui est tout à fait fabuleux. Et l'aventure que ça a suscité auprès de plein de gens, ben elle est remarquable pour essayer de retrouver un objet dont on n'a absolument aucune certitude quant à son existence historique. Mais bon, quelle aventure incroyable.
Et on me dit, en fait, des films, mais il y a aussi des livres. On me glisse ça à l'oreille à la recherche des reliques saintes. Je me demande bien qui a écrit ça.
Ouais, c'est ça. Donc là, c'est sûr que ce soir, on en a fait un peu un survol. Je regardais pour préparer l'émission de ce soir, je me suis dit, bon, quelles sont les grandes énigmes de l'histoire? Puis dans les grandes énigmes de l'histoire, quand on fouille puis on se met le nez un peu dans les ouvrages, très rapidement, on voit que l'un des grands mystères de l'histoire qui revient continuellement, c'est où est passée l'Arche d'Alliance. Donc, ça me tenait à cœur d'en parler ce soir, parce que j'ai quand même eu cette envie-là, de cette quête-là, même si j'ai pas trouvé l'Arche. Mais je sais quel est l'engouement qu'on a pour cet objet-là. À un moment donné... Quelque part, dans le fond de moi, j'espérais qu'il y avait déjà eu un coffre en or avec des anges, des chérubins, le couvert dessus, Dieu qui parle au travers, ben, et tout le reste, là, tu sais, on se met à fantasmer à cette idée-là. Mais bon, sur le plan historique et archéologique, faut bien comprendre que c'est un objet qui représente simplement Dieu, et si ça représente Dieu, on doit le rendre fabuleux. Donc, le récit est une légende et non pas, c'est un peu comme aujourd'hui, on essaierait de retrouver, je sais pas, la toison d'or ou retrouver le cyclope à un seul œil. Tu sais, c'est des récits, Ali Baba et les 40 voleurs, bon, la caverne d'Ali Baba, ce sont des récits, ce sont des mythes qu'on retrouve dans des écrits anciens.
Anciens, c'est ça.
C'est ça, ce sont des écrits anciens avec toutes sortes de fantasmes et ça fait rêver. L'Arche d'Alliance fait rêver, mais je pense qu'il faut être sérieux, puis l'arche telle qu'on la voit dans Indiana Jones n'a probablement jamais existé. Mais c'était une belle histoire.
Et c'est très apprécié des auditeurs. On a des commentaires super positifs ce soir. Toujours intéressant de vous écouter. Certains y vont de leur propre théorie aussi. Et finalement, on a... Christian est tout un raconteur. Je suis complètement hypnotisée. Et c'est ce qui met fin à notre émission de ce soir. Christian, merci encore. Demain, c'est déjà la dernière. C'est incroyable. On a eu une petite semaine, courte semaine. Et est-ce qu'on se fait plaisir avec des tueurs en série? Est-ce qu'on retourne dans l'occultisme et la religion?
Non, demain on parle de tueurs sanglants.
Oh yes!
Donc, on parle de tueurs sanglants, de vampires et de barres à clous.
Vampires et barres à clous, ça, ouais, OK. Pour un public averti, encore une fois.
Oui,
je sais
absolument.
Que c'est trop court, les auditeurs, mais on reprend ça demain. On est là au moins de présence quotidienne, puis ça nous fait plaisir d'être là. Christian, merci de nous concocter des émissions extraordinaires soir après soir. On apprécie beaucoup.
Ça me fait plaisir. On se reparle demain.
À demain.
Ciao.
Bye.
Radio X-Files. Radio X.